Avec Suno Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à Kigali pour cette deuxième émission enregistrée à l'occasion de la 20e édition d'ICASA, la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Afrique sans sida, monde sans sida, ambition planétaire. Les faits sont là, recul significatif, réel, du nombre de décès comme de nouvelles contaminations enregistrées grâce à la réponse mondiale. Si chacun salue l'impact des efforts de la recherche, de l'accès au traitement, de l'accompagnement des patients ou de certaines campagnes de prévention, certains indicateurs, en dépit de l'énergie et des moyens déployés, certains de ces résultats restent très éloignés des attentes. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les jeunes en Afrique, adolescents et encore davantage les adolescentes, car si l'on observe une diminution de la mortalité due au sida pour tous les groupes d'âge, eh bien ce n'est pas le cas pour les 10-19 ans, douloureuse exception. Entre 5000 et 6000 jeunes de 15 à 24 ans contractent chaque jour le VIH dans le monde. Alors nous allons tenter de comprendre pourquoi et surtout qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour changer les choses? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut être amélioré en termes de prévention, en termes d'accès aux soins? Donner la parole, faciliter l'autonomisation pour faire face à l'infection, grandir en confiance. Autant de sujets que nous allons aborder au cours de cette émission avec nos invités. Les jeunes face au VIH-Sida prioritaire ou laissés pour compte, une émission réalisée à Kigali en partenariat avec l'initiative 5%, facilité mise en œuvre par Expertise France et complémentaire du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Trois invités nous ont fait le plaisir de répondre à notre invitation aujourd'hui. Docteur David Masson, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes pédiatre spécialiste du VIH. Vous avez travaillé sur le projet Grandir, projet devenu aujourd'hui Réseau Grandir. Rodrigue Kofi, bonjour.
Bonjour Madame.
Vous êtes coordinateur du réseau Grandir Ensemble, basé à Abidjan. Mais ce réseau regroupe 18 organisations dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest. Enfin, nous vous donnons la parole. Tatiana, bonjour.
Bonjour Madame.
Vous êtes père éducatrice depuis 3 ans au sein de l'ONG Aide Médicale et Charité de Lomé. Et vous êtes aussi ambassadrice du réseau Grandir Ensemble.
Priorité santé sur RFI.
Alors comprendre la situation en donnant la parole aux soignants comme aux acteurs de terrain. Et puis surtout, et peut-être enfin, écouter la jeunesse. Parce que le maître mot lorsque l'on parle de santé, surtout face à une infection qu'il faut gérer au long cours comme le VIH-Sida, c'est évidemment, docteur David Masson, d'être autonome, d'être responsable de son traitement, savoir se traiter, savoir vivre avec la maladie, savoir se soigner. Ça veut dire quoi, être autonome, justement, quand on est jeune et quand on est séropositif?
Je vais commencer par faire une clarification sur le fait qu'il y a deux populations d'adolescents et de jeunes qui vivent avec le VIH. D'une part, les adolescents qui sont nés avec le VIH, qui ont reçu le VIH lors de leur naissance ou pendant la grossesse ou l'allaitement. Et de l'autre côté, des adolescents ou des jeunes qui contractent le VIH lors de leur première relation sexuelle, donc beaucoup plus tard, vers, on va dire entre 15 et 25 ans. Ces deux populations sont complètement différentes parce que les premiers sont nés avec le VIH, ont commencé leur traitement parfois depuis 10 ans, 15 ans, ont découvert pendant l'enfance ou au début de l'adolescence qu'ils étaient porteurs d'un virus, puis du VIH, au milieu de l'adolescence réalisent toutes les conséquences qui découlent du fait de vivre avec le VIH et doivent se construire avec cette réalité, rentrer dans la vie amoureuse, avoir leur première relation sexuelle, avoir leur projet de famille, puis leur projet professionnel et leur projet de vie, alors que la deuxième catégorie, en fait, a eu une enfance et une adolescence plus classique et contracte cette maladie alors que l'adolescence est déjà bien avancée.
Vous venez de dire, et on va y revenir au cours de cette émission, un certain nombre d'entre eux apprennent au cours de leur enfance leur statut sérologique. Ça veut dire que des parents font la démarche, c'est-à-dire de faire traiter leur enfant, de leur donner les médicaments indispensables pour qu'ils soient en bonne santé, les antirétroviraux, mais pour autant, l'enfant prend ses cachets sans savoir forcément la nature de sa maladie. Est-ce que ça a été le cas pour vous, Tatiana ?
Oui, madame.
Et en fait, c'est à quel âge que vous avez compris que ces médicaments, eh bien, vous les preniez pour limiter les effets du virus ?
C'était à l'âge de 13 ans, lorsque j'avais refusé de ne plus prendre les ARV. C'est en ce moment qu'ils étaient obligés de me dire que je souffrais du VIH.
Ce que vous venez d'évoquer, Tatiana, c'est l'observance, la régularité avec laquelle on prend ces médicaments. C'est absolument essentiel. Docteur Masson, vous pouvez nous expliquer pourquoi, justement, ces médicaments, il faut les prendre tous les jours, à heure précise et sans s'arrêter.
Tout simplement parce que dès qu'on diminue un petit peu cette observance, c'est-à-dire qu'on rate des prises, on arrête quelques jours et on reprend, le virus très rapidement recommence à se multiplier et va muter. Donc muter, ça veut dire qu'il peut devenir moins sensible à certains traitements qui sont donnés. Et progressivement, ces mutations s'accumulent et le virus devient de plus en plus résistant au traitement jusqu'à ce que le traitement ne fonctionne plus.
Comment ça s'est passé alors, Tatiana, ce jour où on vous lâche le mot VIH-SIDA ? Dans quelles circonstances ?
C'était terrible le jour-là. J'étais partie en consultation. Après le prélèvement, j'ai rencontré un psychologue et il a fait sortir certaines affiches. Mais sur l'affiche, on avait écrit VIH et il me demandait à savoir qu'est-ce que cela veut dire. Je l'ai défini ça, puisqu'on a fait ça à l'école. J'étais en classe de 3e. Et il m'a demandé si on me disait par hasard que j'ai le VIH, comment me sentirais-je. Et je lui ai dit, je vais l'accepter, je ne vais rien faire. Donc, et puis là, lâcher le mot que c'est comme ça. Après le dépistage, après le test, les analyses ont révélé que c'est comme ça. Je suis séropositif.
Mais les enfants sont curieux. Vous preniez des cachets sans demander pourquoi est-ce que j'avale tous ces médicaments ?
J'ai demandé.
Et qu'est-ce qu'on vous a dit ?
Il me disait juste simplement que puisque je tombe de temps en temps malade, c'est pour prendre ça pour que je ne tombe plus malade.
Donc, pas beaucoup de clarification. Docteur David Masson, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette façon de dire les choses ? Est-ce qu'il faut une certaine maturité pour pouvoir accepter le diagnostic ?
En fait, on travaille sur cette thématique depuis une dizaine d'années maintenant et on s'est rendu compte que dès 6-7 ans, au moment où l'enfant acquiert la pensée logique, il faut lui donner une explication pour qu'il comprenne pourquoi il prend des médicaments alors qu'il est en bonne santé. Donc, dès 6-7 ans, on explique avec des images, des notions simples, qu'il faut prendre les médicaments parce qu'à l'intérieur, dans le sang, il y a un microbe et que ce microbe, il faut le faire dormir. Et quand on prend les médicaments, ça fait dormir le microbe. Si on arrête de prendre les médicaments, le microbe se réveille. Et cette notion-là, elle est répétée plusieurs fois pendant toute l'enfance. Et au début de l'adolescence, idéalement vers 11-12 ans, on explique que ce microbe dont on parle, il s'appelle VIH. À cette époque-là, VIH pour le jeune adolescent, c'est quelque chose de grave. Mais il ne réalise pas encore toutes les conséquences que ça va impliquer pour sa vie future.
Mais là, vous parlez en tant que médecin, maintenant en tant que parent. D'autant plus quand les parents ont eux-mêmes un certain nombre d'idées préconçues, un certain nombre de croyances et de peurs, forcément, au sujet du VIH-SIDA. Peut-être que eux vont être tentés de freiner l'information.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que c'était pas aux parents d'annoncer le VIH à leurs enfants. C'est trop compliqué. Ça les renvoie à la culpabilité d'avoir transmis le virus et puis à leur propre annonce qui a pu être traumatique. Et donc, ils font la projection de ce traumatisme sur leur enfant. Et donc, maintenant, on sait que c'est aux équipes, bien entendu, avec les parents, avec leur accord et avec leur soutien, mais c'est aux équipes, soit les médecins, soit les psychologues, en tout cas des personnes formées, qui doivent transmettre ces messages.
Rodrigue Coffi, on vous donne la parole. Vous aussi, vous êtes impliqué très jeune dans cette cause. Parlez avec les autres jeunes de la maladie. À quel âge est-ce que vous êtes impliqué ?
Alors, c'est un engagement qui a commencé lorsque j'avais 13 ans, aujourd'hui j'en ai 33, qui est lié aussi à des histoires de famille, à des liens personnels et autres, et qui a commencé d'abord sous une forme d'abord scolaire, comme le notait le docteur, la nécessité de communiquer, de transmettre l'information en matière de prévention en matière scolaire, et progressivement il y a eu un besoin d'aller au-delà, de contribuer à l'action directe d'accompagnement, de prise en charge d'adolescents, jeunes vivant avec le VIH, mais aussi de ceux qui ont des parents ou des frères et sœurs qui vivent avec cette maladie, mais qui ont aussi un vécu difficile avec cette maladie.
Est-ce que vous avez eu l'impression, finalement, qu'être confronté au VIH-SIDA tout petit, tout jeune, ça vous a fait mûrir plus vite?
Il y a ce besoin d'agir parce que c'est aussi un moyen de passer à autre chose, de sortir de la position de victime et de voir donc comment est-ce que l'accompagnement qu'on a reçu ou l'accompagnement qu'on a vu des proches recevoir qui les a aidés à passer des jours un peu moins difficiles, comment est-ce qu'on peut le transformer en force? Et justement, ça rejoint le deuxième argument que je voulais avancer sur l'idée que le fait d'ignorer que ces enfants, ces jeunes existent, c'est aussi leur ignorer le droit de participer à la réponse. Parce que quand on ignore leur présence, on estime qu'ils ne sont pas forcément partie de la solution. On les considère simplement comme des indicateurs, comme des bénéficiaires de services.
Tatiana, père éducatrice, pour expliquer à nos auditeurs ce que c'est, père éducateur pour Rodrigue, père éducatrice pour vous, qu'est-ce que ça veut dire?
Père éducatrice, ça veut dire parler de la même chose aux gens qui sont dans la même situation, qui vivent les mêmes choses que nous.
Comment est-ce que vous avez décidé de passer du statut de patiente à celui d'aller travailler avec les autres, avec les jeunes?
Parce que dans la lutte, j'ai perdu plein de mes amis qui sont morts de cette maladie. Et j'ai même assisté à leur enterrement. Donc j'étais vraiment touchée. Donc c'est à cause de ça que je me suis fortement impliquée dans cette lutte.
Docteur David Masson, est-ce que vous considérez aujourd'hui ces associatifs, les pères éducateurs, comme vos véritables associés dans la lutte contre la maladie?
Tout à fait. Ils ont vraiment pris une place de manière relativement récente, hein, parce que les pères éducateurs au niveau des adultes, on connaît ça depuis longtemps, mais des adolescents pères éducateurs, ça a commencé à se mettre en place il y a quelques années, ça commence à se structurer seulement en ce moment depuis peut-être 2 ans, et on voit les pères éducateurs apparaître, y compris dans les milieux anglophones, parce que on a un véritable défi spécifique pour la prise en charge des adolescents qui sont nés avec le VIH actuellement. La prise en charge thérapeutique est complexe, ils ont pris des traitements pendant 10, 12, 15 ans. Leur virus a muté, ils ont des traitements plus complexes.
Parce qu'il y a des résistances?
Ils ont quasiment tous des mutations de résistance, pas forcément qui impactent fortement leur traitement actuellement, mais pour certains, oui, on n'a quasiment plus de solutions thérapeutiques, et pour la plupart, on a déjà des mutations qui fragilisent les traitements actuels. Donc, l'observance dont on parlait tout à l'heure a besoin d'être la plus importante possible, la meilleure possible. Et au moment de l'adolescence, le fait de pouvoir travailler en collaboration avec des adolescents pères éducateurs qui peuvent transmettre des messages à une population qui est moins réceptive aux messages des adultes parce qu'elle est en plein milieu de l'adolescence, on a véritablement un allié qui nous permet d'améliorer la qualité de la prise en charge.
On va tout à l'heure dans l'émission tenter de continuer sur cette voie, hein, mieux informer, mieux dépister, mieux soigner. Est-ce que les moyens sont à disposition? Est-ce que la méthode employée aujourd'hui est la bonne? On est allé interroger les premiers intéressés à l'occasion d'une table ronde que nous avons organisée en marge d'une session jeune, ici à Kigali, en marge de la conférence ICASA.
RFI.
Alors, des questions et des réponses à plusieurs voix, avec autour de cette table 4 jeunes qui ont répondu à l'invitation de Priorité Santé aujourd'hui à Kigali. L'UNICEF récemment qualifiait les adolescents et les jeunes vivant avec le VIH comme les laissés pour compte de la lutte contre l'infection. Je m'adresse tout d'abord à vous, Ben, pour savoir si vous vous retrouvez dans cette expression « les jeunes et le VIH laissés pour compte ».
Je dirais que je me retrouve dans cette phrase, là c'est pour contre. Les gens ont une notion vraiment très négative, n'est-ce pas, sur les adolescents vivant avec le VIH-SIDA. De ce fait-là, qu'on n'est pas considéré, nous ne sommes pas, n'est-ce pas, associés aux différentes prises de décisions qui nous concernent.
Ben, vous êtes séropositif depuis que vous êtes tout petit. Vous avez appris dans quelles circonstances votre statut sérologique?
Non, c'était un soir. Je m'amusais avec mes camarades. Et puis tout d'un coup, voilà, je vois ma grande sœur qui m'interpelle de venir prendre les médicaments. Et là, je viens, je dis, bon, ok, moi, ça suffit, moi, je me porte très bien, à quoi c'est de prendre les médicaments? Donc, je dis, si je ne sais pas de quoi je souffre, j'arrête de prendre les médicaments. Donc, du coup, elle sort de la chambre, et revient après 10 minutes, et elle me demande, est-ce que je connais le VIH? J'ai dit non. Elle me dit, ok, tu souffres de cette maladie. Mais j'avoue là que c'est quelque chose de très dur qui t'a tombé sur moi. Après qu'elle m'ait dit que j'étais séropositif, j'ai posé une question. Je lui ai demandé, est-ce que dans le centre où je suis mon traitement, j'étais le seul ado vivant avec cette maladie? Et elle m'a dit que nous étions nombreux avec cette maladie. Je ne dis pas que ça m'a soulagé, mais en tout cas, vraiment, bon, quelque part, j'ai senti au moins que je ne suis pas le seul vivant avec cette maladie.
Alors, deuxième question, justement à vous, Pacifique. Vous avez 25 ans. Ça fait des années que vous vivez avec le VIH. Ça fait des années que vous prenez les médicaments. Et aujourd'hui, vous allez bien.
Oui, maintenant, je suis bien. Mais avant de connaître mon état, comme j'étais maladif, j'étais beaucoup dans l'hôpital. Mais aujourd'hui, je suis bien grâce à ZALV. Je suis un beau garçon. Je ne peux pas dire que je suis positif parce que je suis capable de faire ce que celui qui n'est pas positif peut faire. Je fais mes projets, par exemple, il peut avoir un enfant sans sida, il peut faire le mariage avec une fille ou un garçon qui n'est pas avoir le sida, il ne peut pas le contaminer.
On va passer à Emmanuela. Dans quelles circonstances est-ce que vous avez appris que vous étiez séropositive? Et est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les jeunes sont un petit peu laissés pour compte? Est-ce qu'on les prend suffisamment en compte quand on parle du VIH-Sida?
Premièrement, j'ai appris que je suis séropositive par ma tante qui me l'a annoncé de façon indiscrète en me disant que je souffre du sida car je n'avais pas pris mes produits. Donc, après cela, les psychologues me l'ont bien expliqué, tout ça. Et la seconde question concernant si les jeunes sont laissés pour compte, je dirais oui, parce que souvent, dans les prises de décision, on ne demande pas ce que nous nous ressentons et comment on le vit.
Où en parler? Avec qui?
On pourrait en parler avec les autorités, que ce soit national ou international. Aujourd'hui, on peut vivre avec le VIH et faire ou avoir des rapports sexuels sans infecter. Il serait bien qu'on le fasse devant les autorités.
On passe à Terence du Burundi, 22 ans. Vous, dans votre expérience, votre famille ne vous a pas aidé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé?
Disons, moi, je suis orphelin, de mère, de père aussi. Et ce qui a été, disons, difficile pour moi, et la famille donc, qui m'a accueilli après la mort de mes parents ne m'ont pas traité comme leurs enfants. J'étais l'enfant de l'autre. Au lieu de trouver refuge à ma famille, j'ai trouvé refuge dans mon association.
Sur la stigmatisation, est-ce que tous autour de cette table, autant que vous êtes, vous avez souffert de stigmatisation? Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ont des fausses croyances, des fausses idées et qui montrent du doigt les personnes qui sont séropositives? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est simple. En fait, en soi, le VIH aujourd'hui ne tue pas, mais disons la fausse croyance, ces mots qui nous disent, cet écart qui se fait remarquer, cette discrimination, tout ça, c'est ça qui nous tue en fait. Si ils nous aident, s'ils nous comprennent, parce que nous sommes les gens comme les autres, on peut tout faire dans la vie comme est. Et pour aussi faire un monde meilleur, il faut vivre en communauté. Donc en s'entraidant mutuellement. Parce qu'avoir le VIH, ce n'est pas la fête du monde. Moi, j'ai pu étudier. Moi, Théron, j'ai pu étudier. J'ai 22 ans. Comment j'ai pu arriver là, en état, avec le VIH? C'est ce qui montre que le VIH, ce n'est pas, disons, une maladie qui fait perdre la tête, si j'ose le dire. Voilà, il faut qu'ils nous aident, qu'ils nous comprennent, qu'ils nous soutiennent dans le rite, parce que ça nous concerne, nous tous.
Est-ce que finalement, les jeunes qui ont le VIH-Sida aujourd'hui, ce ne sont pas les sages?
Oui, moi je dirais aujourd'hui, oui, effectivement. Parce que à travers cette pandémie, nous avons su comment nous comporter dans la vie active, en société, qui permettent, n'est-ce pas, de savoir donner des conseils aux personnes qui ont encore une ignorance très élevée.
Après ce témoignage de Ben Pacifique, vous, c'est à l'école que vous avez subi de la discrimination à cause de votre statut sérologique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux enseignants, au corps enseignant, sur ces jeunes qui arrivent, qui étudient, parce que c'est important, on peut faire des études, on peut aller loin, c'est pas du gaspillage.
Je peux dire un seul message, l'essai de discriminer donner la chance aux jeunes veuves avec le VIH de continuer les études, car tu ne sais pas celui qui viendra être le président de la République. Merci.
Tout le monde a sa chance. Emmanuel, est-ce que vous pensez la même chose? On a lancé un message pour les enseignants, un message justement pour le corps médical, ces personnes qui vous soignent. Est-ce qu'elles vous parlent correctement? Est-ce qu'elles vous considèrent correctement?
Je dirais oui. Pour aller prendre les médicaments, souvent c'est quand on ne prend pas bien et que le soignant constate que tu joues un peu avec les produits, que le soignant se met en colère, te gronde ou bien te réprimande. À part ça, on nous traite bien. Les psychologues qui sont là pour nous donner des petits conseils, nous consoler dans nos chagrins.
Thérence, peut-être je peux vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, pour améliorer la relation entre les adultes et les jeunes qui ont le VIH, et aussi un message aussi aux autres jeunes qui n'ont pas le VIH sur la façon dont ils vous regardent? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Il faut qu'ils nous comprennent. J'aimerais que les adultes nous comprennent. Ils nous aident aussi à être là où ils sont aimés aussi. Donc, un autre message aussi que je vais lancer à la jeunesse qui n'ont pas le VIH, c'est qu'ils nous aident en fait. Ils nous aident à planifier nos projets d'avenir, qu'ils ne nous mettent pas à l'écart au niveau de l'école. Un autre message aussi au gouvernement, parce que nous voulons que nous aussi, on soit considérés dans la prise de décision, parce que nous, il y a plein de choses, il y a plein de difficultés que nous rencontrons, alors qu'ils nous écoutent pour qu'on puisse partager l'expérience, les stratégies de faire, pour qu'on puisse être sauvés nous-mêmes et sauver aussi nos petits frères et nos petites sœurs.
Voilà pour cet échange. Bien évidemment, on va commenter en compagnie de nos invités qui sont toujours avec nous ici à Kigali. Priorité santé, prévention, stratégie pour améliorer la prise en charge des jeunes face au VIH-Sida. L'écoute, on l'a entendu, le regard des autres, c'est très important, c'est essentiel, le regard des adultes. Rodrigue Kofi, coordinateur du réseau Grandir Ensemble, c'est ce que vous disent les jeunes que vous rencontrez sur le terrain. Les choses devraient changer de la façon, par exemple, dont ces adultes, ces parents, ces profs et parfois même ces médecins nous parlent et nous regardent?
Oui, c'est toujours enrichissant d'échanger avec eux, notamment cette année. J'ai pu être en mission au Congo-Brazzaville et au Burundi. Il y a toujours cette force qui ressort des échanges qu'on a avec ces adolescents et ces jeunes. Force dans deux sens. Force dans le sens où il y a de l'énergie. Il y a de l'envie de faire des choses, d'aider à faire des choses, parce qu'il y a une bonne compréhension des besoins. Il y a une saine compréhension des défis auxquels ils font face au quotidien avec leurs familles aussi de leur pays. Mais il y a une sorte de force, une force de rage qui découle de différents échanges, parce que aujourd'hui, on prend certains virages difficiles dans les réponses globales. On est dans une dynamique de parler de chronicisation du VIH. Cette forme de qualification est certainement vraie dans certains contextes occidentaux. Mais il est difficile aujourd'hui, et je dirais même un peu anormal, de parler de maladies chroniques pour le VIH dans les contextes d'Afrique de l'Ouest, du Centre, quand on a encore des facteurs de rejet qui existent aujourd'hui. Nous avons encore des facteurs de stigmatisation, de discrimination qui existent et qui sont institutionnels, puisqu'ils abondent dans ces régions des pays où une personne vivant avec le VIH ne peut pas accéder à certains emplois publics et privés. C'est pas que c'est implicite, il y a des situations qui sont claires. Et dire qu'il y a aujourd'hui, VIH est considéré comme une maladie chronique alors qu'il y a tous ces facteurs. C'est sauter un élément essentiel qui amène à avoir un regard spécifique sur le besoin de ces populations et notamment des enfants et adolescents qui sont concernés.
Une forme de banalisation, mais en même temps, on peut dire que dans ce contexte africain, beaucoup de maladies, on pense particulièrement aux maladies mentales, font l'objet d'une très forte stigmatisation. Et voire même des maladies chroniques, on va dire assez classiques, comme le diabète. Il y a tout un certain nombre de fausses croyances autour de maladies, pourtant, docteur David Masson, qu'on pourrait dire assez classiques. Et pourtant, il y a des fausses croyances. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, par rapport au VIH-Sida, c'est encore, on va dire, un niveau supérieur de stigmatisation?
Oui, je crois très nettement. C'est vrai que, je pensais tout à l'heure, on ne parle pas d'un adolescent porteur du virus de l'hépatite B, 100 fois plus contagieux que le virus du VIH, mais on a
un regard spécifique
pour les patients qui vivent avec le VIH. Et avec des différences, une amélioration quand même. Hein. C'est vrai que c'est le rejet social qui tue actuellement, mais en Afrique de l'Est, par exemple, où la prévalence est encore élevée, la stigmatisation est moindre. En Afrique de l'Ouest, elle reste, et dans certains pays, on a encore une stigmatisation, comme si on n'avait pas de traitement, comme si le
c'était la mort. Faut dire les choses. Toucher, c'est pour ça qu'il y a ce notion de chronicisation. C'est comme dédramatiser d'un côté, mais de l'autre, continuer à regarder les patients avec le même regard dramatique, tragique.
Et ce qui est amusant, c'est que les jeunes ont beaucoup moins cette vision-là, parce que les jeunes ont pas connu la terrible époque de l'épidémie africaine dans les années 90 et 2000. Et parmi les adolescents pères éducateurs qu'on accompagne avec le programme de SIDAction, on en a certains qui se marient avec des partenaires séropositifs qui les acceptent malgré le fait qu'il ou elle porte le VIH. Et ça, c'est un vrai changement qu'on n'aurait pas pu voir il y a même 5 ou 10 ans.
Tatiana, vous aussi, donc sur le terrain à Lomé, père éducatrice, on a bien sûr compris l'importance de l'information pour en finir avec un certain nombre de fausses croyances. Est-ce que vous pouvez nous citer justement dans votre exercice certaines de ces fausses croyances que vous devez corriger? On vous dit des fois un petit peu n'importe quoi sur le VIH-Sida. Qu'est-ce que vous entendez par exemple?
Par exemple, si tu es à côté de quelqu'un et si la personne attend que tu aies par exemple le VIH, la personne peut s'éloigner à côté de toi. Ou soit, si tu prends une peigne de ton camarade pour peigner, la personne, en faisant une blague, en disant qu'il ne faut pas prêter peigne ou bien il ne faut pas prêter une lame, que maintenant il y a le VIH, qu'on peut contaminer le VIH en prenant une peigne pour peigner une simple cheveu.
Donc, des fausses informations en matière de contagion. Je m'adresse bien sûr au médecin, docteur David Masson. Tout cela, c'est, on le dit, on le sait, mais on le répète, c'est totalement faux.
C'est totalement faux, et encore plus maintenant qu'on a les traitements, on sait que même la transmission sexuelle, quand on a un traitement efficace et qu'on retrouve plus le virus dans le sang, on peut avoir des relations sexuelles sans préservatif, sans pouvoir transmettre le virus.
Alors Rodrigue Coffi, le réseau Grandir, vous travaillez essentiellement justement avec des jeunes séropositifs, mais vous êtes aussi en contact avec la jeunesse en général. Et d'ailleurs, tout à l'heure, le docteur Masson le disait, on peut très bien être séropositif et avoir un partenaire amoureux séronégatif. Donc là aussi, il va y avoir toute l'information sur la prévention de la contamination. Comment vous travaillez sur ce sujet aujourd'hui quand on parle prévention auprès des jeunes qui ne sont pas contaminés? Qu'est-ce qu'on leur dit?
Alors, c'est vrai qu'au quotidien, nous n'avons pas d'action globalement spécifique sur les aspects de prévention. Mais il faut noter que les organisations membres du réseau Gandhi, ensemble, ont aussi des activités en direction de la population générale. Et cette ouverture en direction de la population générale, elle est importante et se fait notamment avec certains pères éducateurs qui conduisent certaines activités de sensibilisation, comme l'a noté Tatiana tout à l'heure, notamment dans les écoles. En Afrique de l'Ouest, il y avait des espaces de rencontre des jeunes autour du thé, qu'on appelle généralement des grains de thé. Nous avons donc ces structures, comme en Côte d'Ivoire, le centre SAS qui le fait, mais aussi au Mali avec Akatsida, qui font une certaine activité. Vous avez des jeunes aussi, notamment au Mali, si on reste au Mali, qui ont développé une belle idée, une expérience, notamment avec la plateforme qu'ils appellent Espace Jeunes, qui ont développé donc un cadre de prévention en direction de tous les jeunes via les réseaux sociaux. Ils ont des espaces de communication et il y a donc des différents groupes WhatsApp qui existent, à l'intérieur desquels ils essaient de discuter des préoccupations en matière de santé sexuelle, en matière de prévention du VIH, mais aussi en matière d'avortement et ces questions qui peuvent être tabous, qui peuvent avoir un lien avec les questions de santé sexuelle. En plus d'avoir les informations générales, en plus de susciter le débat, mais c'est aussi un groupe qui est géré et modéré par des adolescents et des jeunes, pères éducateurs, c'est positif pour la plupart, mais qui sont en lien avec des structures de prise en charge et de santé sexuelle, donc ils vont faire le lien pour orienter. Et donc, du coup, on a des jeunes qui, eux, vivent avec la maladie un certain nombre d'années, mais qui ont développé des activités qui s'ouvrent vers les autres jeunes pour éviter que ceux-ci puissent rentrer dans la catégorie des adolescents et jeunes vivant avec le VIH.
Alors, on mettra l'adresse de cette plateforme sur le site internet de Priorité Santé sur RFI.fr, bien évidemment. On comprend, on va en reparler, cette question de l'observance, parce qu'on a compris que l'essentiel des adolescents prennent connaissance de leur statut au moment justement où ils sont en situation de rejet du traitement. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ils le rejettent et surtout comment les faire revenir dans le traitement, c'est absolument essentiel. Ce risque de contamination qu'on vient d'évoquer, la prévention au plus près des populations, justement avec des dispositifs qui peuvent être sur la voie publique, comme dans ce kiosque ici à Kigali où l'on distribue des préservatifs. On est allé juste en face du stade national, dans la capitale rwandaise, et nous avons rencontré Henriette. Elle a 23 ans, elle travaille pour une ONG. En général, combien de personnes passent par jour par votre kiosque pour venir chercher des préservatifs?
Chaque jour, entre 50 et 80 personnes viennent ici. Ce ne sont pas seulement des jeunes, il y a tous les âges. Ce cahier, c'est juste pour les statistiques. Si quelqu'un passe, je lui demande son nom, son âge, et évidemment, j'inscris le sexe aussi, et son niveau d'éducation.
Est-ce qu'à côté de la distribution, vous faites une information sur la prévention au VIH ?
On les encourage à passer par ici, prendre les préservatifs, surtout pour lutter contre le sida, mais en même temps pour lutter aussi contre les infections sexuellement transmissibles, et puis aussi pour limiter les naissances.
Pourquoi est-ce que vous travaillez ici ?
Je travaille ici parce que je pense que je construis mon pays de cette manière. En distribuant les préservatifs, la population de mon pays est en bonne santé.
Reportage prévention à ce kiosque sur une avenue très très passante de Kigali, donc visibilité, donc on ne se cache pas. Rodrigue Kofi, est-ce qu'il y a ce genre de dispositif à Abidjan?
Oui, vous avez des dispositifs peut-être pas identiques, mais vous avez depuis un certain nombre d'années des distributeurs automatiques de préservatifs qui sont quelquefois installés dans des structures de soins. Donc, il suffit de souvent mettre une pièce de 100 francs et puis vous tournez le levier et la boîte tombe. Mais dans les associations, l'avons notamment vu au Congo, en Kaya, mais aussi au Burundi avec les associations telles que l'ANSS et la SOA. Dans ces structures, donc, comme il y a la difficulté d'accès aux préservatifs, notamment pour les questions de tabou, on sait que l'adolescent, quand il viendra, ce serait difficile pour lui d'en parler directement aux soignants. Donc, ils ont créé donc des espaces de convivialité, donc des petits paniers où il y a des préservatifs qui sont dans la cuisine, dans les toilettes, à disposition. Et bien sûr, le soignant qui va recevoir ce jeune séropositif, pas séropositif, va profiter des différents échanges sans demander si celui-ci a eu accès au préservatif ou pas. Donc, créer un environnement, un cadre qui va susciter l'échange sur ces questions pour que s'il y a des difficultés potentielles en lien avec la sexualité, cela puisse être notamment abordé.
Justement, cette période de la découverte de l'amour, vous me faites signe, docteur David Masson, vous voulez réagir?
Oui, parce que ça fait quelques années où on se retrouve confronté un peu aux réticences des équipes soignantes ou des équipes pluridisciplinaires par rapport à la distribution des préservatifs aux adolescents.
Pourquoi? Ils ont peur que ce soit une incitation?
Tout à fait. Ou que les parents leur reprochent d'inciter leurs adolescents à avoir des relations sexuelles. Donc, on a travaillé, on a formé ces équipes, on les a sensibilisées et on a beaucoup insisté pour cette mise à disposition discrète et en libre accès des préservatifs pour les adolescents. Donc, c'est vrai, on en est là, mais ça a été compliqué. Les équipes qui travaillent dans le réseau Grandir Ensemble sont maintenant formées et plus à l'aise avec cette thématique. Mais dans le cadre de la prise en charge des adolescents dans les structures publiques, ça reste une véritable difficulté.
Ça montre en tout cas qu'il faut encore parfois prendre des pincettes, y aller doucement avec les parents, justement sur cette relation adulte-adolescent. Est-ce que c'est encore plus compliqué finalement d'être un ado quand on est séropositif par rapport à cette relation avec les parents, déjà que les parents nous couvrent, nous protègent et que des fois on est un petit peu confronté à des résistances de leur part de nous voir quitter le nid. Tatiana, un certain nombre d'adolescents qui sont séropositifs, hélas, n'ont plus la chance d'avoir leurs parents, c'est une réalité. Mais quand on a ses parents, qu'est-ce que vous disent les jeunes? Est-ce que les parents sont toujours derrière vous quand on est séropositif, encore plus que pour des ados séronégatifs?
Je dirais que oui. Parce que moi, je n'ai pas fait l'expérience, puisque je suis orpheline de père et de mère. Mais en voyant mes camarades, les parents sont derrière eux. S'ils vont dans certaines activités, par exemple les sorties et autres, on les interdit de ne pas aller.
Rodrigue Kofi.
Oui, en complément de ce que Tatiana dit, on est souvent en présence de parents qui ont eu eux-mêmes des difficultés à accepter leur propre sérologie. Et qui, quelquefois, ont ce réflexe de sous-protection de leurs enfants. Vous avez aussi, quelquefois, des situations très compliquées où vous avez des adolescents qui ont dépassé l'âge de 15 ans, mais qui ne sont pas encore au fait de leur situation sérologique. Il n'y a pas un cadre juridique qui permette facilement aux associations de faire une annonce sans passer par les parents. Et dans ces environnements, c'est encore plus compliqué. La protection, même l'accès à certaines activités de groupes qui sont réalisés au sein des structures de prise en charge, notamment les groupes de parole, qui vont permettre à leurs enfants et adolescents de rencontrer d'autres pour pouvoir vivre un peu plus positivement les maladies, va se poser. Et encore moins, l'hypothèse même d'accepter l'accompagnement de leur père à domicile ou de certaines activités. Donc les contextes peuvent varier, mais il faut dire que certes, il y a beaucoup d'évolutions, il faut quand même le reconnaître, notamment dans le cadre du programme Grandir, qui sur 10 ans, quand même de 2006 à 2016-2017, a contribué au renforcement des capacités des différents soignants. Il y a des évolutions, mais ces réalités-là subsistent encore sur le terrain.
Justement, on a bien compris, hein, quand on a le VIH-SIDA, il n'est pas simplement question de cachet ou de préservatif, mais aussi de trouver les mots justes. Vous parliez de ces groupes de parole. Comment ça se passe précisément, Rodrigue Coffi?
Généralement, ces groupes de parole, donc, ce sont des espaces d'échange. Il y a le travail qui est fait au quotidien par les soignants, peut-être les psychologues, les conseillers communautaires et autres. Mais le groupe de parole, c'est vraiment un cadre pour permettre, si on prend l'hypothèse des adolescents, de se retrouver périodiquement, déjà pour apprendre à se connaître. Ces groupes de parole permettent notamment à ces adolescents et ces jeunes de comprendre que, même si ce n'est pas agréable de le dire, mais qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ce genre de maladie. Et généralement, ces groupes de parole ont été, on va dire, les laboratoires qui ont structuré cette envie de se rendre utile. Voilà. À partir de groupes de parole, ces temps ont commencé à épauler d'autres, à faire un schéma de tutorat, à venir souvent dans les centres de soins, en dehors des jours où ils doivent faire leur consultation, pour venir rencontrer des nouveaux qui viennent arriver pour échanger. Et à partir de là, cela a aidé certains à construire leur auto-engagement avant que par la suite les associations n'aident à structurer, à canaliser un peu les différentes choses.
Alors être informé, c'est aussi prendre conscience des enjeux pour sa propre santé. Docteur Masson, ça nous ramène à cette fameuse question de l'observance. Si des adolescents qui prennent des médicaments, d'ailleurs quels qu'ils soient, ça peut être pour le VIH-SIDA, ça pourrait être pour toute autre chose, comment faire comprendre à un jeune qui a envie de liberté, qui a envie de s'amuser, qui a envie d'être comme tout le monde, que ces médicaments, c'est essentiel?
Eh bien, ça, c'est parfois un casse-tête. Si on revient un petit peu sur les parents, effectivement, dans les familles où les parents sont décédés, on a souvent un problème de manque de support des adolescents. Dans les familles où les parents sont surprotecteurs, on a un problème de manque d'autonomisation des adolescents. Et c'est tout cet équilibre un peu complexe à trouver pour soutenir l'adolescent tout en lui permettant de devenir autonome, qui doit être adapté au fur et à mesure que l'adolescent grandit.
Il y a des spécificités, surtout quand on est en Afrique, des questions différentes qui se posent, par exemple quand on va à l'école, quand on est en pensionnat par exemple, quand on est au collège, quand est-ce qu'il faut aller au centre de santé. Tatiana, justement, vous êtes à la fois patiente, père éducatrice, experte, on va le dire, étudiante j'imagine. Comment est-ce que les médecins intègrent tous ces besoins particuliers du jeune séropositif? Est-ce qu'ils ont bien compris que finalement, tout ce dont a envie un ado, c'est d'être un ado comme les autres?
Je dirais que oui, ils ont bien compris la situation.
Et vous, par exemple, par rapport à vos études, aller à un rendez-vous médical, faire justement le contrôle de votre charge virale, ce n'est pas quelque chose qui vous pose des problèmes en termes d'emploi du temps?
Au départ, ça me posait des problèmes, mais puisque c'est cela que je dois apprendre avant de pouvoir vivre et continuer mes études, je suis obligée.
Alors, docteur David Masson, on entend ces jeunes autour de cette table. Ils sont raisonnables. Est-ce que ça représente la plupart des jeunes que vous rencontrez ou c'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel?
Non, ils sont un peu exceptionnels. Ces adolescents pères éducateurs, ils ont des connaissances, un engagement et permettent de faire le lien avec les adolescents dont on parlait avant, qui ont des problèmes d'observance, soit par manque de soutien familial, soit par problème social, soit par manque d'accès à la nourriture, ou plus spécifiquement parce qu'ils sont adolescents, par des phénomènes de déni de la maladie ou de refus du traitement. Sur ces deux derniers cas, c'est vraiment les adolescents pères éducateurs qui peuvent débloquer des situations et ramener cet adolescent qui est en refus de prise en charge vers le soin pour que l'équipe puisse reprendre la prise en charge.
Alors nous abordons la dernière partie de cette émission consacrée à la prévention et la prise en charge du VIH-SIDA chez les jeunes. Toujours à Kigali, hein, comprendre ce qui peut être amélioré dans les stratégies. On a parlé de ces préjugés, mieux informés. Quand on évoque cette question des adolescents parmi les populations les plus vulnérables, eh bien, les jeunes filles le sont encore plus. Docteur David Masson, est-ce qu'on doit travailler, soigner différemment les jeunes filles que les jeunes garçons?
En termes de prévention, il y a quand même quelque chose qui est très particulier à l'Afrique. Et quand on regarde les chiffres, notamment à l'Afrique de l'Est et à l'Afrique australe, où on a à peu près 3 jeunes filles qui sont contaminées pour un garçon, c'est la grande vulnérabilité économique et sociale de ces jeunes filles qui sont souvent obligées d'avoir des relations sexuelles de survie, parfois tarifées, parfois contre de la nourriture, parfois pour payer leurs études, avec des taux de contamination qui sont très élevés à ce moment-là. Donc là, on est dans la catégorie de ces adolescents et adolescentes qui se contaminent en tant que jeunes adultes. Et là, l'éducation peut jouer, mais une protection sociale aussi serait nécessaire.
On a bien compris à travers votre réseau, hein, Grandir, qu'on essaye d'adapter au maximum le discours, les explications à ce public de la jeunesse. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans le discours des autorités, dans le discours des parents, dans le discours des dirigeants? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle et on considère justement correctement ces jeunes? Rodrigue Coffi, est-ce que vous avez l'impression que le monde des adultes comprend les besoins des jeunes? Et particulièrement en matière de santé et de VIH-Sida.
Nous constatons juste qu'il y a encore énormément d'efforts à faire pour considérer la tranche d'âge de l'adolescence. Dès l'instant que nous restons dans un découpage qui se fait en deux portions, nous avons d'un côté des enfants et de l'autre côté des adultes, et qu'on ne prévoit pas entre ces deux écarts de vie, donc ce trait d'union de l'adolescence, notamment lorsqu'on est en matière de santé, les questions spécifiques dans notre contexte VIH, il est évident qu'on ne va pas avancer. Et aujourd'hui, les résultats, les chiffres sont là en termes de données, en termes d'informations sur la situation des adolescents dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre et la Djibouti, que couvre le réseau. Il y a quasiment pas grand-chose qui est fait, même dans l'accès au traitement, même dans la question de réponse aux besoins sociaux, aux besoins directs sur le terrain.
Mieux comprendre justement ces adolescents, docteur David Masson, est-ce qu'il y a aussi, même si depuis le début de l'émission, j'ai noté que Tatiana ne veut rien dire de mal contre le corps médical, est-ce qu'il y a aussi un petit peu à avancer sur ce terrain, mieux former les soignants pour qu'ils, justement, évitent eux aussi de tomber parfois dans les préjugés? Bien évidemment, quand certains jeunes se font soigner, certains peuvent entendre « tu n'avais qu'à pas aller courir à droite et à gauche pour te retrouver », même sans savoir exactement la réalité de leur histoire. Donc, est-ce qu'il y a aussi, du côté du corps médical, un effort à faire?
Évidemment, il y a un effort à faire plus globalement pour former les équipes et les soignants et les médecins sur qu'est-ce qu'un adolescent et comment on peut effectivement répondre aux spécificités de la prise en charge de l'adolescent pour arriver à l'amener à l'âge adulte et ensuite peut-être le remettre dans une prise en charge plus classique. Ça fait 3 ans maintenant que ce programme est en cours. On forme des équipes aux spécificités de la prise en charge des adolescents. Les spécificités sur le plan du traitement, on en a parlé un petit peu au début de l'émission, mais aussi sur l'accueil, sur les raisons spécifiques des adolescents qui les poussent à arrêter de prendre le traitement. Et c'est pas simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Ils savent qu'ils portent le VIH. Ils savent qu'ils doivent prendre les ARV et ils les prennent pas. Donc, comment on va chercher les raisons pour pouvoir agir sur ces raisons? Et très peu d'équipes actuellement sont formées à cette démarche. Et donc, dans la phase suivante qui va commencer l'année prochaine et qui démarre pour 3 ans, on a décidé avec le bailleur qui est Expertise France de former aussi les équipes du public. Et donc de travailler avec les programmes nationaux pour que tous les progrès qui ont pu être faits au niveau communautaire soient transmis au niveau des équipes qui travaillent dans les sites publics pour en faire bénéficier le plus grand nombre d'adolescents.
Alors on arrive vraiment à la conclusion. Qu'est-ce que vous imaginez, Rodrigue Coffi, aujourd'hui, réponse assez courte, assez simple, qu'est-ce que vous imaginez pour améliorer justement le message et la prise en charge?
Alors aujourd'hui, il y a énormément de données et de chiffres, de rapports qui montrent l'importance et voire même l'urgence de faire en sorte que ces enfants, ces adolescents et jeunes ne soient plus délaissés pour compte. Donc, il est important de faire le bon en avant. Il y a eu la conférence de reconstitution du Fonds mondial qui a permis de mobiliser 14 milliards de dollars.
C'était au mois d'octobre dans la ville française de Lyon.
Et c'est de voir comment est-ce que, au-delà de mobiliser ces fonds, c'est comment on change la manière d'utiliser ces fonds. Comment on se dit, peut-être qu'il faut prévoir des lignes spécifiques qui vont cibler ces adolescents. Ce serait, au-delà d'un message politique, ce serait un message fort pour dire qu'il y a un travail à faire. Et deuxième chose, si vous me permettez, nous sommes aujourd'hui à ICASA, pendant que nous avons célébré la journée mondiale de lutte contre le sida, qui nous dit que les communautés font la différence. Les communautés font la différence parce que sur le terrain, il y a du travail qui est fait par les communautés, pas seulement par les diverses associations de grandir ensemble, mais par toutes les autres. Ça, c'est bien de le dire. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces communautés? Comment on valorise leur expertise? Comment on les accompagne dans le travail qui est fait au quotidien pour qu'au quotidien, dans le suivi qui est fait jusque dans les villages, jusque dans les maisons de ces enfants et adolescents qui vivent avec le VIH, il y a un apport médical qui est très important, mais l'accompagnement des communautés sur le terrain est essentiel. Donc il faut aller au-delà des mots et investir sérieusement et concrètement au sein des communautés, donc des organisations.
Tatiana, vous avez des projets, vous, des projets amoureux, familiaux, d'études? C'est quoi l'avenir pour vous?
J'ai des projets familiaux. Avoir un mari séronégatif et avoir des enfants séronégatifs. Pour mes projets de travail, je rêve de travailler dans la fonction publique en tant que sociologue et médiateur.
Docteur David Masson, l'expérience à travers plusieurs pays du continent africain, vous, qu'est-ce que vous voyez pour améliorer la situation? Est-ce que, ça fait longtemps que vous travaillez sur ce secteur, qu'est-ce que vous avez vu s'améliorer pour aussi avoir quelque chose de positif?
La première amélioration, c'est Tatiana, en fait, hein. Il y a 10 ans, 12 ans, quand on a commencé, on soignait des bébés et des jeunes enfants parce que les adolescents, ils survivaient pas. Actuellement, on les a accompagnés au cours de ce programme qui dure depuis bientôt 15 ans. Et actuellement, on est dans des thématiques où ces adolescents sont à chercher quelles études, quelles familles. Donc ça, c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir, c'est d'avoir réussi à les amener à l'âge adulte en bonne santé. Et l'autre chose, pour sortir un petit peu de l'apport qu'ils peuvent donner aux équipes pour aider leur père, c'est aussi que c'est une nouvelle génération de militants. Dans les années 80-90, on avait des associations militantes très fortes au Nord. Et puis après, dans les années 90-2000, des associations qui se sont formées au Sud, en Afrique. Et puis, il y a une sorte, comme disait Rodrigue Coffi, de chronicisation, mais aussi de perte du militantisme, parce que les traitements étaient là, et donc on commençait à dire, voilà, bah ça va, le VIH maintenant c'est réglé. Or non, on est à un moment où les choix thérapeutiques qui vont être pris sont fondamentaux, et qui peut mieux défendre les personnes vivant avec le VIH que les adolescents, avec leur énergie et avec leur capacité.
Et c'est vrai, parce qu'ils sont nombreux, on les voit, hein, dans les rues de Kigali, avec leur fameux badge ICASA, avec les couleurs du drapeau rwandais. Merci beaucoup, hein, d'avoir communiqué toutes ces informations, votre expérience sur ces efforts déployés pour réduire la vulnérabilité des ados, des jeunes face à l'épidémie de VIH. Merci Tatiana. Je rappelle que vous êtes père éducatrice au sein de l'ONG Aide Médicale et Charité de Lomé, ambassadrice du réseau Grandir Ensemble, réseau dont vous êtes, Rodrigue Coffi, coordinateur. Merci à vous, docteur David Masson, pédiatre spécialiste du VIH. Priorité santé à Kigali à l'occasion de la 20e édition de la conférence ICASA, conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. ICASA que nous vous faisons vivre toute cette semaine dans la capitale du Rwanda. Une émission préparée par Ophélie Lassène, réalisée par Richard Rifono ici à Kigali et Didier Bleu à Paris. Demain jeudi, Priorité santé vous retrouve toujours ici à Kigali pour parler de la couverture santé obligatoire, accès aux soins au Rwanda, état des lieux, impact en termes de santé publique. On se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Tout à l'heure sur